Bienvenue sur RMC After Coupe du Monde spéciale Afrique du Sud. Aujourd'hui, un pays quadruple champion du monde. Mais en rugby, en foot, c'est un petit peu moins bien, mais ça reste une valeur sûre du continent africain.
RMC After Coupe du Monde, les 48 équipes.
Aurélien Thiersin.
Amis de RMC, bonjour, bienvenue. La Coupe du Monde de foot, c'est là. C'est très bientôt sur RMC en intégralité du 11 juin au 19 juillet. Aujourd'hui, un pays quadruple champion du monde, mais de rugby. L'Afrique du Sud, pour le football, c'est un peu moins glorieux. Trois éliminations au premier tour d'une Coupe du Monde. C'est un épisode à retrouver en podcast sur After Foot TV, sur YouTube. Bien évidemment, l'Afrique du Sud, malgré tout, reste un pays très important du continent africain, surtout grâce à son championnat local. La première chip, le championnat le plus puissant du continent, un vivier de joueurs très important, pour la plupart inconnus en Europe. Alors on va les découvrir avec nos deux invités, notamment avec Sando Sibiya, journaliste sud-africaine, freelance à Paris. Salut Sando.
Salut, merci.
Magnifique pull, hein.
Bah merci, bravo. 98.
Très joli pull, effectivement, qui rend hommage aux années 90, la plus belle période du foot sud-africain. Et avec nous également Alexandre Lafitte, ancien coach des Marumo Gallants en première chip. Salut Alex.
Salut Aurélien.
Plus jeune coach français en D1 au monde, on le rappelle. Hein.
Exactement.
Du stade d'Abidjan. Allez, c'est parti pour l'After Coupe du Monde spécial Afrique du Sud. Et oui, ça doit rappeler des souvenirs, ça, notamment Sando, le but de Tchabalala en 2010, Afrique du Sud, Mexique, match d'ouverture donc de la première Coupe du Monde sur le sol africain. Ça reste peut-être le moment de gloire du foot sud-africain en Coupe du Monde, Sando.
Ah ouais, c'était énorme, je me souviens très bien, j'étais pas au stade, j'avais pas assez de sous pour ça parce que les billets coûtaient cher. Pas le 2 millions qu'on va payer là pour la Coupe du Monde là aux États-Unis, mais c'était assez cher pour nous quand même. Il y avait des fan zones, mais je me souviens bien que quand il a marqué le but, c'était incroyable. Et pour Tchabalala aussi, comme joueur, toute l'équipe, vraiment, c'était un moment, son carrière a changé après ça ensuite. Donc c'était incroyable et on espère que 11 juin. La même chose contre la Mexique.
Et oui, parce que clin d'œil de l'histoire, c'est encore un Mexique-Afrique du Sud qui va ouvrir la Coupe du Monde. Ce sera à Mexico, donc dans une autre ambiance, peut-être un peu plus compliquée. Il y avait eu un partout entre l'Afrique du Sud et le Mexique en 2010. Comment c'est attendu justement? Est-ce qu'il y a une petite pression supplémentaire d'être le pays qui va ouvrir la Coupe du Monde, Sando?
Bien sûr, il y a tous des yeux sur le premier match de tournoi. Et je pense que pour l'Afrique du Sud, tous les yeux de continent africain et pour les Sud-Africains aussi. C'est contre Mexique, un des auteurs, un host du tournoi. Et du coup, il y a beaucoup de pression. Ils sont chez eux. 2010, nous, on était chez nous. Et on a marqué le premier but. Mais j'ai regardé tout à l'heure le match. C'était Mexique qu'ils ont marqué en premier et c'était hors-jeu. Donc là, ça joue un peu. Et j'espère que nous, on ne sera pas hors-jeu ou il n'y aura pas de décision comme ça.
Avec le VAR, maintenant, c'est plus compliqué de toute façon.
Voilà, je voulais parler du VAR. Et il y a tous les changements de réglementation aussi avant la Coupe du Monde. Donc il y a plein de choses à regarder. Là, on attend pour la sélection de coach Hugo Bruce. Petite anecdote aussi. C'est bien que c'est en Mexique, parce que Hugo Bruce, il a joué pour Belgique, en Mexique. Oui. Je crois qu'ils ont joué très bien là-bas aussi. Et là, il fait pas mal de décisions pour préparation avant la Coupe du Monde, où ils vont s'entraîner, parce que c'est pas le même...
Altitude,
merci. C'est pas le même altitude par rapport à l'Afrique du Sud. Donc là, il y a...
Ça peut jouer, effectivement, ouais, à Mexique.
Voilà. Donc là, avoir un entraîneur qui est bien au courant de tout ça, en termes de préparation, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que lui, il se rend compte qu'on ne peut pas jouer ou faire des formations, ou l'entraînement, dans une altitude aussi haute.
Et oui, quelques
jours,
voilà,
et quelques jours après, on joue le match dans une altitude un peu plus basse. Donc vraiment, il se rend compte de tous des petits détails qui peuvent jouer pour la performance de l'Afrique du Sud. Donc moi, j'ai très hâte. Mais là, il faut attendre pour les sélections. Et ensuite, on peut parler.
Parce qu'on enregistre le 8 mai, effectivement. Donc on n'a pas encore la sélection officielle. On parlera quand même, évidemment, des joueurs principaux de cette sélection. Ce sera le groupe A pour l'Afrique du Sud, pour compléter donc avec le Mexique, la République tchèque et la Corée du Sud. On parlera des ambitions sud-africaines plus tard dans ce podcast. Rapidement, toi, Alex, tu as été donc coach en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de joueurs qui évoluent donc dans cette première chip. Le football en Afrique du Sud, je l'ai dit, c'est un pays quadruple champion du monde de rugby. Ça représente quoi, justement, par rapport au sport roi, on imagine, qu'est le rugby?
Alors, c'est ce que nous, Européens, on pense, mais à vrai dire, ce n'est pas la réalité de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un pays de football, honnêtement. C'est un pays où, que ce soit en première division ou quand l'équipe nationale joue, les stades sont pleins. Mais il y a une ferveur populaire qui est incroyable.
Il y a une pression populaire, d'ailleurs.
Il y a une pression populaire, notamment pour certains clubs et pour l'équipe nationale. Faut pas se mentir. Mais surtout, il y a une vraie volonté de jouer au foot, des gamins, on le voit. C'est vraiment, j'ai été assez surpris et choqué par ça. Et c'est vrai que nous, on a une vision plus du pays comme étant expert dans le rugby, ce qui est le cas. Mais la réalité, c'est que le nombre de licenciés, le nombre de personnes qui jouent au foot, est beaucoup plus important.
Tu dirais que c'est le sport numéro un de la population.
Exactement, sport numéro un. Et après, il y a le rugby et le cricket.
Alors, ce sera la quatrième participation de l'Afrique du Sud à une Coupe du Monde après 1998, 2002 et 2010. Mais déjà, Sando, il faut expliquer que l'Afrique du Sud était exclue de la FIFA et ne pouvait pas participer aux Coupes du Monde à cause de l'apartheid jusqu'en 1992. Donc finalement, trois participations depuis donc officiellement la Coupe du Monde 94. C'est un bilan correct avec trois éliminations au premier tour, mais en terminant troisième de groupe à chaque fois, avec des victoires notamment contre la Slovénie en 2002 et contre l'équipe de France en 2010, on s'en rappelle après l'épisode Nice-Na. Donc bon, c'est un très mauvais souvenir pour nous, mais pour vous c'est un très bon souvenir. Donc globalement, c'est un parcours quand même honnête pour l'Afrique du Sud qui ne peut participer aux Coupes du Monde que depuis 1994.
Ouais, il ne faut jamais oublier qu'il y a toute une histoire derrière sélection ou juste South African Football Association, l'association sud-africaine de foot. Et parce que comme organisation officielle, ça existe depuis des années 90, même pas, sorry, 1900s, voilà, quand le foot est arrivé en Afrique du Sud, et toute une évolution, et la formation de la CAF aussi. C'était en 56, où ils ont formé la CAF avec l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Et il y avait l'Afrique du Sud aussi. Et ils étaient exclus de la CAN, le premier CAN en 1956, parce qu'il y avait des réglementations. En Afrique du Sud, il y avait de ségrégation. Et il y avait des équipes qui peuvent... En Afrique du Sud, c'était vraiment... Il n'y avait pas une équipe mixte. Donc, c'était soit 100% noir, 100% blanc. Et vu qu'avec la situation de l'apartheid, le gouvernement était contre d'avoir une équipe mixte. Ouais. Et du coup, ils ont été exclus. Ça a évolué et, enfin bref, 96, et c'est le premier CAN, et l'Afrique du Sud, il gagne. Mais là, c'est là où on voit le premier inception de l'équipe d'une équipe sud-africaine de foot, avec sélectionneurs bien mixtes et tout ça. Disons par rapport à la France, par exemple, là, on parle d'une histoire, on peut parler de jeux ou des matchs des années 40, 48, ou something like that. Quand tu parles 1947 ou something like that, il y a toute une histoire derrière. Donc là, institutionnellement, à l'Afrique du Sud, on a très peu de temps. Et je trouve que là, ça commence à monter un peu. Parce que même quand on regarde, il y avait 19 entraîneurs pour l'Afrique du Sud. Hugo Bruce, c'est le plus long-standing.
Il est là depuis 5 ans, on en parlera en détail.
On n'a jamais eu ça. Les entraîneurs, ils ont duré 1-2 ans. Et tu peux parler de ça. On avait parlé de ça, de période des coachs en Afrique du Sud. Ouais. Il y a très peu de temps qu'ils ont pour développer.
Il y a pas de stabilité au niveau des entraîneurs.
Donc c'est pour ça qu'on voit que le niveau de l'Afrique du Sud, ça augmente un peu, parce qu'il y a un entraîneur qui garde les joueurs, qui suit bien.
Même si on peut regarder peut-être un tableau de l'âge d'or de l'Afrique du Sud en football, ce sont les années 90. Tu gagnes la CAN 96, tu es finaliste en 98, troisième de la CAN 2000, et il y a donc le Mondial 98 et 2002, avec des joueurs comme Lucas Radebe, Pierre Issa, Quinton Fortune, Sean Bartlett, Benny McCarthy évidemment. Ça, Alexandre, toi qui connais bien le championnat sud-africain, Il n'y a plus de joueurs de ce niveau-là. Il y en avait qui jouaient en Première Ligue, à l'Olympique de Marseille pour Pierre Issa. Benny McCarthy, c'était une vraie star en Europe. Aujourd'hui, il n'y a plus de stars sud-africaines dans le continent européen.
Ouais, c'est la réalité. Aujourd'hui, l'équipe nationale s'appuie énormément sur des joueurs locaux du championnat, parce qu'aussi le championnat sud-africain est le championnat le plus puissant économiquement d'Afrique. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, les joueurs, ils n'ont pas forcément au premier abord d'intérêt à partir. Et puis aussi, c'est ce que j'expliquais précédemment. Pour nous, Européens, il n'y a pas forcément d'intérêt parce qu'ils considèrent un jeune joueur comme un joueur de 24-25 ans qui est un peu... Il y a un parallèle qui est fait entre la mentalité sud-africaine et américaine, où c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui peuvent sortir d'université, alors même si aujourd'hui, il y a des clubs qui peuvent former. Et du coup, un jeune joueur, il y a très peu de jeunes joueurs qui arrivent à sortir rapidement. Et c'est pour ça qu'aussi, on ne voit pas forcément de joueurs partir sur le continent européen parce que...
Mais c'est pas un problème de niveau pour toi, c'est pas un niveau qui a baissé.
Bon, après, je vais pas m'exposer sur ce sujet-là parce que chaque génération est différente, le football a évolué. Mais je pense que c'est un contexte général qui fait que le championnat est performant, les joueurs sortent tard. Mais je pense qu'on va arriver sur quelque chose où il y a maintenant, on le voit, avec des joueurs qui commencent à sortir. On va en parler peut-être tout à l'heure.
Oui, absolument. Je prends notamment la direction de la Major League Soccer.
Exactement, parce qu'il y a un lien fort qui a été fait par un ou deux joueurs et ça suit le cours. Mais je pense qu'il va falloir suivre comme un joueur comme Mofoke. Il va falloir voir est-ce que peut-être qu'il va peut-être arriver en Europe, parce que c'est un joueur qui est brillant, qui est encore un jeune joueur et qui a tout pour être en Europe. Mais c'est vrai que dans l'état actuel, il n'y a pas de joueur référent en Europe. Mais n'empêche que je pense que cette équipe peut être redoutable et performante.
Et ben on va en parler dans le détail de cette équipe. Très rapidement, Sando, la qualification de l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde a été correcte, mais pas extraordinaire. Premier du groupe C de la zone Afrique avec 18 points, donc 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, devant le Nigeria, le Bénin, le Lesotho, le Rwanda et la Namibie. Mais finalement, ça a été tendu jusqu'au bout. Finalement, tu valides quand même ton ticket sur le terrain, ce qui n'avait plus été fait depuis 2002. Donc c'est quand même très positif, même si ça a été serré jusqu'au bout.
Ouais, c'était une performance qui a été assez fluctuante. Et quand on fait une comparaison, disons par exemple contre la France, quand on regarde l'équipe qui est sélectionnée pour la France, c'est sûr qu'il y aura Ousmane Dembélé, sauf s'il y a une blessure ou un duet. Il y a des joueurs qui c'est certain. Mais avec l'Afrique du Sud, ça a changé, c'était aléatoire. Donc on avait Mchichi, Themba Mzwane qui faisait partie de l'équipe, qui était assez fort au milieu de terrain, c'est lui qui gérait tout l'attaque, l'offensive. Et lui, il subit beaucoup de blessures, il a 34 ans, et c'est un peu compliqué pour lui. Et vu qu'il y a un changement comme ça qui peut changer tout le
visage de l'équipe.
Voilà. Et je pense que c'est ça la faiblesse pour l'équipe de l'Afrique du Sud.
Mais globalement, d'avoir terminé devant le Nigeria et le Bénin, vous considérez que ça comme c'est une très bonne performance ?
C'était bien.
Ou c'était normal, attendu ? Vas-y, Alex.
Non, mais pour moi, c'est une grande performance parce qu'en plus, il y a quelque chose qui, à un moment donné, ils ont perdu sur tapis vert aussi parce qu'ils ont fait jouer un joueur qui était suspendu.
C'est bon,
Et donc, si on regarde, pendant 2 ans, hormis le premier match, ils sont invaincus. Donc, moi, je pense que c'est une grande performance. Notamment le match contre le Nigeria qui était au Toyota Stadium à Bloemfontein, du coup en septembre, où ils font une performance remarquable et ils ont su contenir les Nigérians. Et je trouve qu'il y a eu des matchs comme ça assez symboliques dans le parcours. Et ce qui fait que... Alors, je pense que moi, j'ai été un peu frustré et déçu par la CAN qu'ils ont fait. Mais par contre,
8e de finale, élimination en 2020.
Ouais, et la défaite, hein, je trouve qu'en Égypte, en phase de groupe, qui les fait passer en deuxième position. Et...
C'était question d'arbitrage aussi. Donc plein d'autres choses autour.
D'ailleurs, on va passer parce que le temps file pour développer un petit peu les personnalités de cette équipe sud-africaine. Vous suivez sur RMC l'After Coupe du Monde spéciale Afrique du Sud. Et donc sur RMC avec nos deux invités, Sando Sibiya, journaliste sud-africaine basée à Paris, et Alexandre Lafitte, ancien coach des Marumo Gallants, un club de première chip basé à Bloemfontein. On va parler du coach de cette sélection sud-africaine, Hugo Broos, 74 ans, belge qui est là donc depuis 5 ans à la tête de la sélection. Il a remporté 10 titres, notamment en Belgique dans les années 90-2000, 3 fois champion de Belgique avec Anderlecht, avec Bruges. Une deuxième partie de carrière plus exotique. Il est parti en Grèce, en Turquie, puis les Émirats Arabes Unis, l'Algérie. Ensuite, sélection du Cameroun, vainqueur de la CAN 2017. Donc finalement, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Toi, Alexandre, qui est avec ton œil de coach, Hugo Broos, c'est quel genre de coach ?
Ouais, pour moi, c'est un coach à la fois qui amène un peu de rigueur et de paternalisme, mais à la fois aussi qui a su, moi je trouve, cette équipe. En fait, il faut comprendre que le football sud-africain, à la base, c'est un football très offensif, très technique, mais un peu moins structuré. Et lui, il a réussi à apporter cette structure, cette organisation notamment défensive, cette rigueur aussi en dehors du terrain. On l'a vu avec certains jeunes joueurs. Et il a su aussi casser les codes, c'est-à-dire impulser les jeunes joueurs.
Il a testé 122 joueurs en 55 matchs.
Ouais, exactement. Moi, je trouve qu'on lui a peut-être laissé du temps, mais il a su aussi avoir des résultats à un moment donné.
À demi-finale de la CAN 2023, exactement. En Côte d'Ivoire.
C'est ce qui lui a permis aussi d'avoir du temps. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il a une belle vision de son effectif et de l'effectif global. Je pense qu'il a bien travaillé. Et voilà, je pense qu'on peut être assez curieux de ce qui va se passer pour l'Afrique du Sud avant qu'il parte normalement à la retraite.
Alors, Hugo Broos, oui, effectivement, 74 ans, donc ça ne devrait pas tarder. 55 matchs avec les Bafana Bafana, 28 victoires, 17 nuls, 10 défaites, mais finalement très très peu de matchs contre des équipes hors d'Afrique. Et là, on parle de la Coupe du Monde. Il y a eu un France-Afrique du Sud en 2022, 5-0 pour l'équipe de France. Plus gênant encore, peut-être, un match nul contre Andorre en 2024, 1-1. Et puis, très récemment, 2 matchs contre le Panama, 1-1 et défaite 2-1. Est-ce que ça ne vous inquiète pas, et toi particulièrement, Sando, avant une Coupe du Monde, cette faiblesse contre des équipes hors d'Afrique ?
Oui, bien évidemment. Surtout Panama, c'était bien en Afrique du Sud. Après le premier match, je me souviens bien qu'il y avait un peu d'espoir de style de jeu, mais offensivement et défensivement aussi. Milieu de terrain, je crois, c'était assez OK. Mais c'était ces deux zones-là, les deux côtés, que vraiment on a vu qu'il y a quelque chose qui ne nous collait pas trop. Défensivement, ils ne s'organisaient pas très bien. On a vu ensuite la défaite de 2-1. Mais il y avait un joueur qui avait une très bonne performance, c'est Mbegeze Limbogazi, TLB. Lui, il est très fort défensivement. Il a joué à Orlando Pirates avant d'être signé aux États-Unis pour Chicago Fire. Et là, si vous suivez son parcours là, aux États-Unis, il est hyper fort. Et vraiment, le jeu défensivement, il est construit autour de lui. Donc, si on a un joueur de star défensivement, ça ne suffira pas. Oui. Parce que c'est 11 contre 11. Et s'il n'y a qu'un seul joueur qui peut vraiment gérer toute l'équipe, parce qu'il a marqué un but, je crois, c'était dans le premier match contre Panama.
Oui.
Donc, vous avez un défenseur qui trouve des opportunités, qui voit le jeu différemment. Là, c'est un point fort, mais en termes de points faiblesses, il y a quelque chose qui ne colle pas devant. Et c'est au niveau de Osuna Palace, comment il s'organise bien. Lal Foster, c'est un très fort joueur. Il est à Burnley, en Angleterre. Il est très fort. Il joue en Europe. C'est un des joueurs qu'on peut regarder bien. Avant, c'était Petit Tao, qui vraiment, il a fait son chemin autour du monde. Il a terminé même à...
Belgique.
Il était en Belgique. Il était assez fort aussi, mais je reviens vers le sujet de Lyle Foster et comment ils peuvent être aussi forts ailleurs, chez Burnley, mais avec l'équipe sud-africaine, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc il y a le jeu qui vraiment il est construit autour de joueurs, mais quand c'est le final third, ou comment dire le final third pour finir, ouais. Voilà, le finition. Je crois que c'est là le point de faiblesse
de
pour l'Afrique
nationale,
du Sud. Ouais. Mais quand on regarde là pour les qualifications de la Coupe du Monde, quand il y avait Temba Zouane, c'était le match contre Benin, je crois, si je ne me trompe pas. Et vraiment, il y avait Temba Zouane, il y avait aussi Morena. Et ces deux joueurs-là, ils se trouvent au centre, ils se trouvent au bon endroit et ils finissent bien. Et là, on verra avec la sélection de Hugo Bruce. Temba Zwane, il est là, il est plus blessé, il est en forme.
Oui, c'est l'interrogation principale de la sélection à venir. En tout cas, il y a un joueur dont on sait qu'il sera là, c'est Ronwen Williams, le gardien, 34 ans, 62 sélections, gardien des Mamelodi Sundowns, trois fois champion d'Afrique avec peut-être le plus grand club des dernières saisons. Alex, il a été élu meilleur gardien de la CAN 2023 et c'est vraiment un excellent gardien qui n'a jamais tenté sa chance en Europe, mais qui est une véritable star en Afrique du Sud.
Oui, exactement. Hein. Dès que vous sortez de l'aéroport, vous voyez de suite des affiches de lui. C'est un joueur qui a tout gagné avec Sundance, qui est capable, ballon au pied, de pouvoir jouer sous pression, de faire des différences, d'aider dans les ressorties de balles et aussi est capable de protéger sa défense, que ce soit dans les airs ou sur sa ligne ou même dans la gestion de la profondeur. Donc c'est un gardien honnêtement qui a toutes les caractéristiques pour le très haut niveau et c'est vraiment pour moi une force pour l'Afrique du Sud par rapport aussi à son style de jeu, parce que à la base l'identité quand même de l'Afrique du Sud c'est une équipe qui aime jouer dans les petits espaces, qui aime ce jeu un peu de possession et qui maintenant s'est transformé avec des profils un peu hybrides vers un jeu aussi d'attaque rapide de transition, et c'est pour ça que cette sélection, c'est vrai qu'elle n'a pas cette expérience dans la grande compétition comme la Coupe du Monde. On va voir comment ça va se passer, mais elle a un gros potentiel pour pouvoir être performant.
Oui, bah on a parlé de Bekelezi Mbokazi, le défenseur, donc un central gaucher à 1m77 qui est exactement costaud dans l'impact aujourd'hui au Chicago Fire en MLS, ancien des Orlando Pirates. Et autre joueur des Orlando Pirates qui est peut-être la star offensive de l'équipe, même s'il compte 12 sélections pour aucun but, c'est Relebohile Mofokeng, tout petit format, 1m66, mais j'ai vu ses Magic Skills sur YouTube. C'est vrai que c'est un très très bon dribbleur, un frappeur aussi, il enroule au deuxième poteau. Est-ce que lui peut faire la différence, Alex, dans une compétition comme la Coupe du Monde ?
Je l'espère. Pour moi, c'est un joueur que j'ai connu mais quand j'étais avec le Stade Abidjan. On avait joué en Ligue des Champions et je me rappelle qu'on avait joué à Orlando Pirates. On avait pris 3-0 et il avait fait un match fantastique où il avait lui tout seul porté l'équipe. Pour que les auditeurs comprennent, c'est un joueur un peu la Neymar qui est capable de ballon à l'arrêt, de faire des différences, des gestes fantastiques et d'aller très vite. Mais à la fois aussi avec Orlando, on le voit très efficace. C'est vrai que pour l'instant, il ne s'est pas imposé avec cette sélection. Mais pour moi, c'est sa Coupe du Monde. Il sait que c'est important pour lui.
D'ailleurs, il a ouvert la porte à un départ en Europe. Il aimerait bien.
Exactement. Bon, on sait que Orlando va demander beaucoup d'argent, mais c'est un joueur qui avait été convoité la saison dernière déjà par des pays outre l'Afrique. Et voilà, je pense que s'il réussit sa Coupe du Monde, c'est probable qu'il rejoigne l'Europe.
Ouais, et autre joueur important de la sélection, Sando, c'est Bongo Kulé Longwane, alors j'espère que je le prononce à peu près correctement, qui est aujourd'hui à Minnesota United, donc aussi en Major League Soccer, qui est donc peut-être le nouvel Eldorado des joueurs sud-africains. Lui, c'est ailier droit, 19 sélections, 4 buts, donc pas non plus des énormes stats. Joueur peut-être un petit peu plus brut de décoffrage, j'ai regardé aussi ses matchs sur Internet, mais plutôt bon finisseur également, qui est imposant, qui pose des soucis aux défenses adverses.
Ouais, c'est bien hein, parce que si on regarde, déjà il y a Mofokeng qui est ailier et là il y a Bongoutlé aussi en ailier. Donc on voit bien que si Coach Hugo Bros peut jouer avec ça, jouer des ailiers, un peu de vitesse de ces endroits, les deux joueurs ils sont assez jeunes, ils bougent bien entre les lignes et je pense que vraiment ils peuvent faire quelque chose avec. Mais je reviens du sujet de Relebohile Mofokeng. Et je trouve que vraiment, lui, c'est quelqu'un qu'on peut vraiment suivre bien parce que tu as parlé de dribblage. Et je trouve que c'est assez important. On voit aussi avec Bayern, il y a Olise qui bouge comme ça. C'est très difficile pour les défenseurs qui sont vraiment structurés et qui n'arrivent pas trop.
Après, vous avez parlé de Neymar et Olise. Je reconnais qu'il a un style très particulier. Il accélère fort. Après, je pense qu'on n'est pas exactement au même niveau encore. Ouais. Faut être clair. Ouais. Mais c'est vraiment un joueur à suivre parce que c'est vrai que 12 sélections, aucun but avec l'Afrique du Sud, ouais. C'est malheureusement encore une fois, la finition, tu parlais des problèmes de finition, le fait de marquer des buts, c'est là le principal problème de l'Afrique du Sud.
Bah, si on a un bon finisseur, en Lyle Foster, on ne sait jamais s'il y avait un peu de travail entre la CAN ou même les amicales, les jeux là pour les qualifications aussi. S'il y avait toute une formation pour lui, vraiment en termes de finition, s'il y aura Temba Zouane, on a vraiment besoin d'un joueur qui peut créer des opportunités aussi. Parce qu'au milieu de terrain, ça se trouve que des fois, de temps en temps, ils peuvent tomber pour être défensifs. Mais on a vraiment besoin de la vitesse. Un joueur comme Dembélé, vous avez vu là pendant la Ligue des Champions, comment il a fait un pressing assez fort. Donc si on a un joueur comme Relebohile Mofokeng qui peut vraiment être là en termes de vitesse dans les ailiers et press aussi pour l'Afrique du Sud, je pense que vraiment on peut avoir un petit...
Un mix intéressant.
Voilà.
Je pense qu'il y a un profil aussi comme Apolis qui a Orlando Pirates, qui est utilisé...
Assez petit aussi.
Qui va très vite, ouais. Et qui peut aussi être dans ce genre de registre. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, la sélection sud-africaine, elle a vraiment des talents et des potentiels, des caractéristiques de joueurs pour pouvoir jouer dans les petits espaces comme aussi dans les grands. Moi, je pense qu'elle va être une histoire de confiance.
Justement, Alex, du coup, 11 juin, Mexique-Afrique du Sud, ouais. À Mexico, match d'ouverture, donc toujours très compliqué. Exactement. Contre le pays hôte. République tchèque à Atlanta le 18 juin et Corée du Sud à Monterrey le 24 juin. Toi, tu les vois sortir d'un... C'est un groupe quand même très difficile, très homogène.
Ouais, c'est très homogène. Moi, je pense qu'ils ont le potentiel, mais après, ça va être une histoire de dynamique et il faut bien démarrer. Et une histoire de confiance. C'est une équipe qui est capable de tout par rapport au profil qu'il y a. Je trouve que derrière, ils peuvent avoir une assise défensive quand même plutôt costaud. Au milieu de terrain, ils ont tous les profils.
Donc tu les vois embêter les autres équipes.
Ouais, honnêtement, je les vois potentiellement pouvoir sortir de la phase de groupe. Et je l'espère pour eux.
Bon, le mot de la fin pour toi, Sando, tes espoirs pour cette Coupe du Monde et les objectifs de la sélection du Gobros.
Sortir de...
Ça serait déjà une première hein, dans l'histoire, évidemment.
Voilà, gagner au-dessous du groupe. Et sortir de phase de groupe.
Ouais, donc un 16e de finale, tu prends.
Voilà.
Même éventuellement en tant que meilleur 3e, puisqu'il y a les 8 meilleurs 3e qui peuvent passer en 16e de finale.
Ça, c'est un espoir. Et je pense
serait déjà
que
vécu comme quelque chose
aussi.
De positif pour le pays.
Oui, ouais, bien sûr. Mais je pense qu'ils sont capables.
Merci beaucoup, Sando Sibiya, journaliste sud-africaine basée en France, et Alexandre Lafitte, ancien coach des Marumo Gallants. Vous avez un épisode par nation qualifié à cette Coupe du Monde, donc 48 épisodes. RMC sera au plus près de l'équipe de France, évidemment, de toutes les sélections de cette Coupe du Monde. Ce sera à vivre en intégralité du 11 juin au 19 juillet. Salut les amis, ciao.
RMC, After Coupe du Monde, les 48 équipes.